Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, deuxième émission aujourd'hui consacrée à l'homme, couronnement de la création. Nous sommes en compagnie de Jean-Claude Larcher qui vient de signer deux livres dont l'un va paraître dans les jours qui suivent. Alors premier, les fondements spirituels de la crise écologique et les animaux dans la spiritualité orthodoxe. C'est ce livre qui va nous occuper davantage aujourd'hui. Et surtout cette idée des animaux dans la spiritualité, qui est un titre qui est presque, je dirais, contradictoire, hein, en tout cas à première vue. Et le rôle des animaux est un peu connu, je dirais, pour qui fréquente les églises, étant donné qu'il suffit de regarder les icônes, beaucoup d'icônes qui représentent des animaux auxquels Dieu a confié une mission. Il y a le corbeau qui vient voir Élie, il y a le lion qui aide Josim à creuser le tombeau de Marie l'Égyptienne dans le désert. Mais placer les animaux dans la spiritualité est une chose différente et on ne peut considérer ça évidemment que dans le cadre de la relation de l'ensemble de la création à l'homme et évidemment à Dieu qui est le créateur. Alors deux mots sur ce livre, je dis d'emblée que c'est un très beau livre, celui qui va paraître dans quelques jours et que ce sera une très bonne idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année parce qu'il est très bien illustré avec des textes bibliques, patristiques, extraits de vie de saint et également des textes spirituels orthodoxes actuels sur les animaux, le rôle dans l'histoire, je dirais, du salut, enfin le rôle que Dieu leur a confié. Alors Jean-Claude Larcher, pourquoi ce livre? Et quand on connaît aussi la relation actuelle des hommes avec les animaux qui est souvent contradictoire. D'un côté, on voit des gens qui adorent leurs animaux plus que, je dirais, que les humains. Et de l'autre côté, vous avez des abattoirs où les conditions sont vraiment terribles.
Oui, il y a un véritable problème spirituel par rapport aux animaux puisque, comme vous le dites, on a un très grand paradoxe dans notre société. D'une part, les animaux n'ont jamais été aussi bien soignés, ils bénéficient d'une nourriture choisie, ils bénéficient de soins médicaux tout à fait performants, ils font l'objet aussi d'hébergements parfois de luxe, il y a des cimetières pour animaux, et il y a une véritable adulation des animaux qui transparaît dans les attitudes des gens qui en ont, dans leur langage aussi. Il n'est pas rare de voir appeler un animal mon bébé. Il n'est pas rare aussi de voir les possesseurs d'animaux considérer que leurs animaux ont autant de droits que les hommes, par exemple, ou de les voir leur donner une place dans la hiérarchie des êtres, non seulement égale, mais supérieure à celle des êtres humains. Et l'autre versant de ce paradoxe, c'est que jamais aussi les animaux n'ont été aussi maltraités, puisque d'abord au niveau de l'élevage, il y a un élevage qui est devenu intensif, qui ne respecte plus vraiment les animaux, tout est mécanisé, tout est automatisé, informatisé, les animaux sont nourris automatiquement, ils ne sont plus reconnus individuellement que par des numéros, et ça contraste vraiment beaucoup au traitement dont les animaux de ferme bénéficiaient il y a quelques dizaines d'années, où ils étaient individuellement connus par l'éleveur, appelés même par un prénom, bénéficiant d'une nourriture personnalisée et, si l'on peut dire, faite d'une manière artisanale et avec une qualité qui n'est plus celle maintenant des produits fabriqués et traités souvent avec des produits pesticides ou ayant fait l'objet de manipulations génétiques. Et il y a évidemment aussi la question de la cruauté dont sont victimes les animaux dans leur transport vers les abattoirs, dans leur la façon raisons mêmes dont ils sont abattus dans les abattoirs, et avant cela, évidemment, la façon dont, si l'on peut dire, ils sont maintenant stockés dans les fermes où ils sont élevés, où ils n'ont plus de place pour se mouvoir, où même ils ont sous leurs pieds des processus automatiques qui obligent leurs membres à trembler pour qu'ils ne se nécrosent pas. Enfin, on a donc ce paradoxe, si vous voulez, et on a donc par rapport à ça aussi des enjeux à la fois théologiques et anthropologiques. L'enjeu théologique, si vous voulez, de la première attitude, c'est qu'il y a une sorte d'idolâtrie des animaux chez certaines personnes. L'animal est vénéré et adulé au-delà de l'homme et parfois même tient la place de Dieu. Et d'un autre côté, il y a évidemment une cruauté vis-à-vis des animaux qui suscite des réactions tout à fait légitimes de la part de groupes qui vont jusqu'à commettre des excès dans leur bonne volonté de redonner aux animaux la dignité à laquelle ils ont droit. Et on a observé récemment, c'est un fait d'actualité, des actions violentes dirigées contre des abattoirs par des mouvements qu'on appelle antispécistes. Le problème n'est pas celui, évidemment, de la protestation contre les mauvais traitements faits aux animaux, c'est tout à fait légitime, mais peut-être la question qui se trouve derrière tout ça, de la vraie place de l'animal par rapport à l'homme, parce que qu'est-ce que ça signifie l'antispécisme? C'est une philosophie déjà d'ailleurs ancienne. Maintenant, on voit des mouvements violents qui se développent à partir de là et donc on en parle beaucoup, mais ça existe depuis déjà plusieurs dizaines d'années. C'est la négation d'une hiérarchie entre les espèces et notamment l'affirmation que l'homme n'est pas dans la nature supérieur aux animaux, que même l'homme par rapport aux animaux, par les moyens sophistiqués dont il dispose de détruire la nature est devenu un animal nuisible qu'il faudrait éliminer. On a cette attitude-là dans des formes extrêmes d'antispécisme, c'est-à-dire que l'antispécisme s'est tourné en protection extrême vis-à-vis des animaux, mais aussi en volonté de destruction et d'annihilation de l'espèce humaine. On trouve ça chez certains philosophes. Et donc, c'est vraiment important de replacer, si vous voulez, l'animal d'une manière correcte dans sa relation à la fois à l'homme et dans sa relation à Dieu. C'est pour ça, en partie, que j'ai écrit ce livre. Et donc, à travers l'introduction, j'aborde les problèmes anthropologiques et théologiques, mais aussi à travers, ensuite, la plus grande partie de ce livre qui est composée d'extraits de textes bibliques, patristiques, etc. J'essaye de montrer à la fois quelle est la relation originelle, normative de l'animal et de l'homme et par rapport à Dieu aussi, comment ensuite cette relation normative des origines s'est dégradée, comment elle est restaurée dans la sainteté, est-ce qu'elle est appelée à devenir éventuellement à la fin des temps, puisque est posé aussi théologiquement le problème de la participation des animaux au salut.
Essayons de prendre les choses dans l'ordre. Si vous voulez, d'abord la Bible, le texte d'origine. Hein. La création, on sait que ça se passe en plusieurs journées. Il y a donc une hiérarchie qui est posée là et que Dieu a trouvé que cette œuvre était bonne, hein, très bonne même. Voilà, donc dans l'ensemble, tout ceci est, d'abord est l'œuvre de Dieu et il y a, je dirais, un jugement positif sur l'ensemble de ça. Alors, quel est l'état idéal, je dirais, que l'homme doit avoir à la nature qui l'entoure et aux animaux en particulier?
Bien, nous nous référons évidemment à l'état paradisiaque comme état normatif. Comme vous l'avez dit, les animaux sont présentés comme étant créés par Dieu et leur création comme étant une création entièrement bonne. C'est-à-dire que dès le départ, il y a une valeur qui est conférée aux animaux du fait que c'est Dieu qui est leur auteur et c'est Dieu qui est aussi leur provident, c'est-à-dire qui pourvoit à leur existence. Au départ aussi, peut-on dire, il y a une relation harmonieuse entre l'homme et les animaux. Et comme nous l'avons dit dans l'émission précédente, la relation harmonieuse qui existait au paradis entre l'homme et la nature se détériore à la suite de son péché. Et cette relation harmonieuse entre l'homme et les animaux devient une relation disharmonieuse, de conflit, d'opposition, qui va non seulement affecter la relation même de l'homme aux animaux, mais la relation des animaux entre eux. C'est-à-dire que ce qui était au départ des relations de paix entre l'homme et les animaux et des relations de paix des animaux entre eux va devenir une relation en grande partie conflictuelle. L'homme va devenir de protecteur des animaux et d'ordonnateur de la nature par rapport aux animaux, va devenir un exploiteur des animaux, comme d'ailleurs aussi un exploiteur du reste de la nature et des végétaux. Mais il va aussi être à l'origine, si vous voulez, d'une disharmonie entre les animaux eux-mêmes, c'est-à-dire que cette relation de pacification qu'il établissait en tant que médiateur entre la nature et Dieu va disparaître et donc l'homme va se trouver face à des animaux que lui-même exploite, mais aussi qui se dévorent entre eux, qui s'éliminent entre eux, qui sont victimes aussi de tous les péchés que peut commettre l'homme par rapport à la nature. Et donc, les textes patristiques, d'une part, constatent cette disharmonie qui se crée, et puis constatent aussi, évidemment, comment cette harmonie est appelée à disparaître. On trouve déjà chez Isaïe l'idée, si vous voulez, qu'un jour, eh bien, le loup et l'agneau paîtront l'un à côté de l'autre de manière pacifique, que finalement tous les animaux sauvages retrouveront la paix, et que finalement cette disharmonie qui s'était établie entre au sein même de la nature, ces relations conflictuelles vont disparaître. Alors là, évidemment, le rôle aussi, ça j'aurais pu le signaler, le rôle de protecteur de l'homme par rapport aux animaux est bien marqué par Noé qui, lors du déluge, fait rentrer tous les animaux dans l'arche pour maintenir leur existence. Mais ce rôle, justement, de Noé est une préfiguration du rôle que l'homme est appelé à accomplir maintenant pour protéger les espèces en voie de disparition. Et c'est pour ça que dans ce livre sur les animaux dans la spiritualité orthodoxe, j'ai fait figurer aussi l'arche de Noé comme dernière illustration du volume pour montrer comment c'est une tâche qui est de nouveau assignée à l'homme de protéger les animaux, de les mettre dans une arche qui permette leur non seulement leur maintien, mais aussi leur saine reproduction. Et donc, il y a aussi le rôle que sont appelés à jouer les saints comme exemple du rétablissement d'une relation harmonieuse entre l'homme et les animaux et entre les animaux entre eux.
Bien sûr, mais nous allons auparavant aller dans l'église pour écouter un extrait du psaume 103, qui est le psaume qui loue la créature par excellence, chanté dans les vêpres, donc dans un office quotidien. « Que tes œuvres sont admirables, Seigneur, tu as fait toutes choses dans ta sagesse. » La terre est remplie de tes créatures. Ce sont les moines du monastère Xénophon du mont Athos qui chantent.
Thank you.
Voilà, c'était les moines du monastère de Xénophon au Moatos qui chantaient cet extrait du psaume 103. Nous revenons à notre conversation avec Jean-Claude Larcher sur l'homme couronnement de la création, deuxième émission aujourd'hui. Donc, ces deux émissions ont lieu à l'occasion de la parution de deux livres aux éditions des Sirtes, Les fondements spirituels de la crise écologique et également Les animaux dans la spiritualité orthodoxe, un beau livre qui paraîtra dans quelques jours. Jean-Claude Larcher, faisons maintenant un voyage, je dirais, un regard sur les auteurs chrétiens. De quelle manière les pères de l'Église, bien sûr la Bible aussi, les pères de l'Église, les saints, les spirituels orthodoxes actuels abordent cette question de la relation de l'homme aux animaux.
Oui, alors dans une première partie de l'ontologie qui constitue le gros de l'ouvrage, j'ai rassemblé des enseignements des pères qui montrent justement quels enseignements eux-mêmes tirent du comportement des animaux. Et alors évidemment, comme on l'a dit, les animaux, après le péché, ont une relation qui n'est plus harmonieuse. Ils sont souvent en conflit entre eux. Certains animaux ont des défauts manifestes, ils sont cruels, etc. Bon, et les pères savent tirer des enseignements non seulement des bons comportements des animaux, mais aussi des enseignements moraux des mauvais comportements des animaux. Sans d'ailleurs juger les animaux, parce qu'ils précisent que comme ils n'ont pas de conscience, pas de volonté, pas de liberté, en tout cas une conscience peu développée par rapport à la nôtre, ils peuvent pas être jugés responsables des actes éventuellement que nous jugerions mauvais, qui commettent les uns à l'égard des autres. Un animal ne peut pas être jugé négativement, par exemple, à cause de sa cruauté quand il attaque un autre animal mal pour se nourrir. Et les pères savent toujours non seulement être indulgents à cause de ça, en n'imputant jamais une responsabilité morale aux animaux, mais aussi en trouvant que même certains mauvais comportements des animaux peuvent nous être utiles justement pour nous indiquer ce que nous devons éviter dans nos propres relations. Parce que ils montrent que justement les animaux, même dans leurs comportements les plus choquants ou les plus cruels, restent toujours dans la limite de leurs besoins. Et l'homme a ceci de particulier que dans ses passions ou dans ses péchés, il va bien au-delà de ce qui lui est nécessaire, par exemple, pour se nourrir ou pour se défendre. Un animal va toujours adapter, si vous voulez, ses moyens de défense, même très agressifs, à ses propres besoins. Il va toujours limiter son appropriation d'autres animaux au niveau de la consommation à ses stricts besoins, alors que l'homme, lui, par ses passions, va bien au-delà. Et donc, les animaux servent de modèle aux pères pour certains comportements. Ils montrent, par exemple, comment les fourmis ou les abeilles sont laborieuses, comment certains animaux sont humbles, comment d'autres sont pacifiques, comment d'autres sont obéissants. Donc, ce sont des modèles de vertu à imiter ou des modèles de passion à éviter. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant, ces enseignements que les pères tirent sur le plan moral et aussi la façon dont ils voient les animaux d'une manière toujours positive, même dans certains aspects négatifs qu'ils peuvent présenter.
Et puis, il faut rappeler que si les animaux ne sont pas tenus responsables des actes mauvais, si on peut dire, qu'ils font, s'il n'y a pas de jugement moral, c'est parce qu'il y a un fondement théologique très profond, c'est que l'homme seul est responsable de ce qu'il fait parce qu'il dispose du libre arbitre. Hein. C'est ça, c'est fondamental.
Tout à fait.
Pour finir maintenant, je dirais, en beauté et aussi avec quelques textes, peut-être quelques exemples, soit dans les icônes, soit dans les textes, soit dans la tradition, qui montrent de manière concrète la relation, justement, de l'homme aux animaux.
Dans la deuxième partie de cette anthologie qui constitue l'essentiel du volume, je donne d'innombrables exemples tirés de toutes les époques jusqu'à notre époque de comportement des pères vis-à-vis des animaux, en montrant combien par rapport aux animaux ils sont mus par l'amour, par la compassion, par la pitié, comment ils viennent en aide aux animaux en difficulté, comment aussi ils savent entretenir avec les animaux une atmosphère de paix qui rend docile à leur côté, même les animaux les plus sauvages. Et c'est vrai que il n'y a pas seulement ces textes pour témoigner de cela, mais aussi d'innombrables icônes que j'ai rassemblées dans ce volume pour illustrer les propos, soit de vie de saint, soit d'enseignement de saint, et qui montrent les pères entourés d'animaux sauvages devenus pacifiés à leur présence, parce que l'atmosphère spirituelle qui se dégage des saints a une influence sur leur environnement. On dirait, dans une terminologie que beaucoup de gens aiment utiliser aujourd'hui, que les saints dégagent de bonnes énergies et que ces énergies, eh bien, agissent sur les animaux. Et donc, les saints, par rapport aux animaux qui les entourent, par rapport à leur environnement, donnent l'exemple d'un monde qui est redevenu harmonieux, où les relations de l'homme avec les animaux sont devenues des relations d'amour, mais sans idolâtrie. Comment, en tout cas, elles sont devenues toujours des relations de respect profond, et comment une vie harmonieuse doit être entreprise et retrouvée avec les animaux.
Et pour terminer, donc, un exemple atonite, peut-être, en prenant parmi ces pères spirituels célèbres, dont certains sont déjà vénérés comme saints. Je pense en particulier au père Paisios, devenu saint Paisios, qui adorait apprivoiser les bêtes ou qui arrivait à le faire, et même des serpents qui venaient leur donner à manger, et tous les visiteurs l'ont dit.
Oui, alors effectivement, il nourrissait des serpents, mais il avait aussi un petit oiseau qui s'appelait Olette, qui le suivait partout, qui l'accompagnait dans tous ses déplacements, avec qui auquel il parlait. Il avait aussi des relations harmonieuses par rapport à des animaux aussi insignifiants et petits que des fourmis. Je l'ai vu lorsque je l'ai rencontré une fois transporter une fourmi parce qu'il trouvait que la charge qu'elle portait était trop lourde pour elle, et donc il avait pitié d'elle et il l'a transportée jusqu'à son nid. Je l'ai vu aussi nous offrir des locums comme il le faisait habituellement en tant que visiteur, mais aller offrir également un locum à des fourmis qui travaillaient à quelques mètres de là près de leur nid. Et donc il avait cette harmonie avec la nature qui se dégageait justement de sa sainteté.
Et l'harmonie qui est inscrite dans les textes chrétiens et qui disent bien quelle est la conduite qu'il faut avoir envers les animaux et envers l'ensemble du monde qui nous entoure. Jean-Claude Larcher, merci. C'était donc l'homme couronnement de la création avec Jean-Claude Larcher. Deux livres parus aux éditions des Sirtes, Les fondements spirituels de la crise écologique et Les animaux dans la spiritualité orthodoxe. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Pierrick Charles. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.